ce que je veux faire, c'est partir de l'idée selon laquelle notre paysage médiatique contemporain est marqué par une pornographisation croissante, cette pornographisation ou pornification selon qui on lit, que Richard Poulin, lui, décrit comme un recyclage d'archétypes pornographiques dans la culture. C'est un contexte que je crois qui est quand même assez problématique, et dans ce contexte, je crois que le rôle des théoriciens des médias doit inclure un questionnement de la représentation du désir et de la sexualité au cinéma et de façon plus élargie dans la culture populaire visuelle. Bon, et la montée, évidemment, on est tous ici pour ça, la montée de ce qu'on appelle communément les « porn studies » permet, je crois, des réflexions à la fois pertinentes et actuelles sur certains de ces phénomènes médiatiques. Par ailleurs, et c'est un peu ce qui va me guider aujourd'hui, je crois qu'il faut revenir sur certaines idées centrales qui ont émergé des « porn studies ». Par exemple, dans un des ouvrages fondateurs, l'ouvrage de Linda Williams, « Hardcore, Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible », Linda Williams appuie sa réflexion sur l'idée d'une maîtrise de l'image par le spectateur. Donc, c'est une maîtrise, dans le fond, visuelle, qui est couplée d'une curiosité foucauldienne qui veut tout voir. Et tout ça génère ce que Williams nomme la frénésie du visible, « The Frenzy of the Visible », qu'elle définit notamment, et je la cite, mais en traduisant, « un savoir-plaisir hardcore produit par la ciencia sexualis ». Elle emprunte évidemment Foucault ici pour définir cette frénésie du visible comme une logique cinématographique qui découle de cette ciencia sexualis, où éventuellement l'image se révèle comme l'ultime vérité du sexe. Williams accepte quand même ici l'idée qu'un plaisir visuel peut découler de la contemplation d'image. Et c'est une idée qui provient d'avant elle, notamment Laura Mulvey, l'idée d'un plaisir visuel qui pourrait supposément procurer au sujet observant, qui était souvent masculin selon Mulvey, une forme de maîtrise sur l'objet observé, souvent féminin, encore une fois, selon Mulvey. Mais, contrairement à Mulvey, Williams constate aussi les limites d'une représentation visuelle du désir et de la sexualité, notant entre autres que, et je cite toujours en traduisant, « plus l'investigateur masculin scrute les mystères de la sexualité féminine, plus il n'arrive qu'à reproduire un plaisir féminin fondé sur le modèle et mesuré contre la norme de son propre plaisir. » Autrement dit, la maîtrise visuelle, finalement, s'avère nécessairement impossible puisqu'il va toujours y avoir quelque chose qui va échapper à la représentation. Et c'est autour de cette impossibilité que le désir va être en mesure de se constituer, du moins le désir dans sa définition psychanalytique. On peut d'ailleurs se référer évidemment à l'idée que Lacan se fait du regard, qui est précisément l'antithèse de la vision. Donc Lacan situe le regard non pas dans l'acte de voir, mais plutôt dans le fait d'être dans et déjà vu et regardé. Il y a d'ailleurs une citation parmi des millions là, que j'ai mis ici, qui provient du séminaire 11, qui dit « Je ne vois que d'un point, mais dans mon existence, je suis regardé de partout ». Donc, le désir se constitue dans une perspective psychanalytique autour de ce qui n'est pas visible. Et contrairement, c'est contraire à ce qu'on pourrait croire si on se fie à une perspective purement mulvéenne ou justement cette idée d'une maîtrise visuelle par un supposé regard qui finalement n'était pas un, c'était ça l'imposture de la théorie psychanalytique au cinéma dans les années 70. Donc, l'image érotisée peut susciter une forme de désir, mais ce désir s'inscrit ultimement toujours autour de ce que l'image n'est pas en mesure de montrer au complet. Évidemment, la pornographie est exemplaire de ce genre de monstration excessive qui est directement reliée à une frénésie du visible. Et cette porno tente de représenter, ultimement de rendre accessible, un objet de désir qui est à la fois évanescent et impossible à représenter au final. Cet objet que Lacan désigne comme l'objet petit A, c'est-à-dire à la fois l'objet et la cause du désir, un objet immatériel, évanescent, qui ne peut pas être symbolisé. Ce qui est intéressant, et c'est le penseur américain Todd McGowan qui le constate, je le cite toujours en traduisant, « La pornographie prend pour acquis que cet objet petit A est un objet matériel représentable plutôt qu'une distorsion dans le champ visuel qui prend en compte le désir du sujet. » Il poursuit en notant que la pornographie ultimement échoue puisque l'objet petit A est irréductible et irreprésentable dans le champ du visible. Donc la logique fondamentale finalement de la pornographie, elle est nécessairement condamnée à l'échec, tout comme l'extension, et c'est ce qui m'intéresse moi, là, de cette logique pornographique dans la culture populaire visuelle, ce qu'on appelle cette pornographisation. L'objet du désir, dans son sens le plus fondamental, demeure irreprésentable au sein du champ visuel. Il serait donc, selon moi, plus approprié de penser que le désir repose sur ce qui échappe à la vision, et c'est ici que je voudrais aborder la pornographisation culturelle à travers l'idée d'une frénésie de l'invisible. Je vais donc, là je saute vraiment du coq à l'âne, pour essayer d'illustrer ça à travers l'analyse cinématographique, je vais proposer de passer vraiment rapidement en revue, il a fallu que je condense beaucoup ce que j'avais à dire, sur ces deux films contemporains derrière moi, donc Shame et La vie d'Adèle, mais dans le sens inverse. Des films contemporains qui remettent, selon moi, en question certaines facettes du fantasme et du désir tels qu'ils sont transmis par le cinéma. Parce que bon, il y a un rôle que le cinéma populaire tient au sein d'un discours culturel plus pornographisant, mais malgré ce rôle, je crois qu'on peut aussi noter la présence d'un cinéma qui s'inscrit en marge de cette tendance. Il y a effectivement un cinéma, ces deux films l'exemplifient, un cinéma qui questionne couramment les conventions de représentation du désir, du fantasme, mais aussi de la masculinité, de la féminité, et c'est ultimement un cinéma qui refuse l'idée d'un objet du désir qui serait entièrement représentable. Et pour cette raison, je vais m'y arrêter pour le temps qui me reste. Donc, encore une fois, Coq-à-l'âne, je saute dans La vie d'Adèle, qui est un film dans lequel on peut trouver effectivement une belle réflexion sur l'idée du fantasme, l'idée du désir, effectivement. D'ailleurs, c'est cité intertextuellement dans le début du texte, voyons le début du film là, avec ce passage où les étudiants lisent le texte de Marivaux, etc. Donc, on a dans ce film une problématisation du désir et du fantasme, plus spécifiquement féminin. Plutôt que de construire une féminité fantasmée qui serait fondée sur des canons souvent finalement réducteurs et contraignants, le film déstabilise son spectateur en produisant un rapprochement inconfortable avec la protagoniste. Il y a ces cadrages souvent très serrés où on lui retire l'habituelle élégance qui sert à maintenir la féminité dans le registre du fantasme. Donc ici, je mets deux exemples, mais moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'avais vu ce film. On est toujours tellement trop près là, de Adèle. Il y a comme un inconfort qui se dégage de ça. Et évidemment, cet inconfort se prolonge dans ces gros plans où le spectateur témoigne aux premières loges de la déconfiture d'Adèle après sa rupture avec Emma. Ça a marché, bon. Donc, on insiste ici, et je crois que c'est très important, on insiste sur son statut de sujet désirant plutôt que sur un statut d'objet désiré. Et la représentation fantasmatique de la féminité s'en trouve fortement mise à mal, du moins dans le sens plus courant, les conventions plus mainstream, pour utiliser un mot qu'on a utilisé beaucoup ce matin. Donc, Donc, il faut préciser ici, je pense que c'est important, que le fantasme n'est aucunement absent dans La vie d'Adèle. Il est là, mais il est simplement repensé et mis à distance. Ça se manifeste d'ailleurs d'une façon frappante dans la mise en image du film. Je cite un exemple, ce moment où Adèle va repenser à Emma après l'avoir aperçue pour la première fois dans la rue. Le film va alors nous plonger dans l'intimité la plus absolue de sa protagoniste, tout en mettant à distance d'une certaine façon le voyeurisme qui serait typiquement associé à ce genre de scène. Parce qu'au contraire, ce qu'on fait dans cette séquence, c'est qu'on nous révèle le fantasme à travers un saut d'axe très frappant dans la façon que c'est filmé et monté. Donc, je m'explique. On a les plans qui sont tournés à la droite d'Adèle, qui nous la présente seule dans son lit, et on franchit le fameux 180 degrés. Donc, on saute l'axe et on nous présente des plans tournés à sa gauche, qui nous présente le fantasme lui-même, c'est-à-dire ces plans qui placent Emma à la droite d'Adèle et qui révèlent finalement un support fantasmatique qui l'accompagne dans cet acte intime. La séquence nous procure ainsi deux points de vue distincts et en rupture. On a Adèle seule, qui se livre à un acte sexuel solitaire, et Adèle qui se livre à un débat sexuel fantasmé avec Emma. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce saut d'axe, finalement, place Emma dans l'espace précis qu'occupe la caméra dans les plans qui présentent la réalité. C'est très sombre, hein, mais bon, tu sais, dans le montage, le regard d'Emma devient notre propre regard. Donc, le saut d'axe, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'à travers ce champ contre champ à 180 degrés, on a une tension entre le regard de la caméra qui filme la réalité et le fantasme qui découle de cette réalité filmée. Donc, finalement, c'est une séquence qui permet au film de se distancer d'une posture purement fantasmatique face à la femme, face à sa sexualité et, évidemment, dans ce film-là, son homosexualité. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de ce thème qui est évidemment très important. L'homosexualité féminine dans le film de Kechiche a, selon moi, peu de lien avec la représentation typique qu'on peut voir dans, notamment, la porn mainstream. Linda Williams note bien d'ailleurs comment la pornographie présente une homosexualité féminine qui n'est jamais tout à fait affranchie d'une logique phallique qui est centrée sur une conception masculine de la sexualité. Dans cette mesure, personnellement, je trouve un peu difficile de recevoir certaines des critiques qui avaient été lancées à l'endroit de la vie d'Adèle, ces critiques qui accusaient le film de céder à une logique voyeuriste et sexualisante. Il y a effectivement des séquences de nature sexuelle dans le film et elles sont résolument explicites, mais elles ne peuvent pas satisfaire un désir voyeuriste masculin, du moins pas celui qui est théorisé par Melville et qu'on utilise malheureusement encore beaucoup pour penser le spectateur. Ça ne peut pas mener vers une frénésie du visible, ces plans ou cette façon de filmer l'homosexualité féminine, puisqu'il n'y a finalement aucune logique phallique. Le spectateur masculin, qui est théorisé par Melville, trouve aucun point d'ancrage pour son regard dans ces séquences où finalement l'explicite va ultimement reposer dans ce qui est absent de l'image. Donc ces plans insistent selon... Oups, je suis allé trop vite. Ces plans insistent selon moi sur une forme de non-rapport sexuel plutôt que sur le fantasme d'un rapport sexuel. Il est alors possible de voir dans La vie d'Adèle une réflexion sur la représentation filmique de la féminité et du désir féminin au cinéma. Et d'ailleurs, c'est une question qui est mise en abîme dans une conversation dans le film... Oups, j'avais oublié ceci. Mais bon, je pense que ça... Je l'ai déjà dit. Donc, cette logique est mise en abîme dans une conversation entre Joachim et Emma dans le film, dans une séquence que je trouve qui est vraiment capitale dans le discours que nous livre Kechiche ici. Donc, il y a Emma qui demande au galeriste Joachim si le plaisir peut vraiment être partagé puisque, et je le cite, « il est chaque fois différent en fonction des gens ». Donc, Joachim répond qu'il y a une qualité de plaisir profondément différente entre les sexes et leur rapport à la jouissance. Donc ici, Joachim va affirmer que la jouissance masculine est beaucoup plus limitée que la jouissance féminine et évidemment, il va opposer ici l'idée d'une jouissance masculine que Lacan qualifierait de phallique à cette idée d'une jouissance féminine qui se situerait toujours selon Lacan au-delà du phallus et conséquemment, bon, c'est une jouissance qui serait haute et ultimement et surtout au-delà d'une fonction symbolique de représentation. Donc Joachim évoque, évidemment, et on en a parlé ce matin, le mythe de Tirésias qui a eu la chance d'être homme, de devenir femme, de redevenir homme, et selon qui la femme s'approprierait 9 parts sur 10 de la jouissance n'en laissant qu'une à l'homme. La séquence culmine, et c'est là où elle devient vraiment intéressante, par une discussion sur la représentation de cette jouissance dans l'art. Et les interlocutrices de Joachim postulent que les hommes, finalement, ont imaginé une extase et une jouissance féminine mystique, qui finalement, je cite les interlocutrices, fait totalement leur fantasme. Certains ont taxé Kechiche d'hypocrisie avec cette séquence-là, parce que dans le fond, il admet une posture masculine problématique, mais tourne quand même des séquences d'homosexualité féminine très explicites. Pour ma part, je crois qu'il est tout autant possible de considérer La vie d'Adèle comme un discours filmique qui accepte ses propres limites, mais qui tente néanmoins de problématiser, parce que c'est ça qu'il fait ultimement, il problématise, il résout pas, il problématise le désir féminin tel qu'il est mis en scène dans la culture populaire visuelle. Je saute encore du coq à l'âne et j'y vais avec Shame. Shame, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, j'espère, ben, en tout cas, que certains l'ont vu, ben, je vais partir de l'idée qu'on partage ce bagage commun. Donc, initialement, c'est un film qui peut sembler ne partager aucun point commun avec La vie d'Adèle, mais une analyse plus approfondie nous permet de constater, finalement, que les deux films ont en fait des perspectives diamétralement opposées sur la même problématique. Donc, d'un côté, on a La vie d'Adèle, qui redéfinit la mise en image d'une féminité fantasmée, et Shane, de l'autre côté, et c'est pourquoi je le trouve vraiment intéressant, ce film, il se centre sur les conséquences de cette mise en image. Brandon, le personnage principal, il incarne, dans le fond, une masculinité qui aurait traversé le fantasme de la féminité médiatisée, et surtout, qui aurait traversé le fantasme d'une possibilité de rapport entre les sexes. Quand Lacan affirme, et je cite ben, la phrase connue, là, qu'il n'y a pas de rapport sexuel, il fait dans le fond référence à la dimension réelle, irreprésentable de la différence sexuelle, et donc à la nécessaire médiation du fantasme pour qu'une tentative de rapport puisse s'effectuer. Ici, Slavoj Žižek là, qui résume, je trouve, de façon adéquate cette dynamique, je le cite, mais en traduisant, même au moment de leur contact corporel le plus intense, les amants ne sont pas seuls. Ils ont besoin d'un minimum de narration fantasmatique comme support symbolique. Ce support fantasmatique, comme on pourrait l'appeler, occupe une place accrue dans notre paysage médiatique contemporain pornographisé. Et le rapport de Brandon avec le fantasme dans Shame se pose finalement comme le lieu d'un discours filmique vraiment important, selon moi, sur ce contexte de surreprésentation qui est le nôtre. Les plans d'ouverture du film nous montrent Brandon qui se dirige en métro vers le travail. Et on a un montage alterné qui nous présente ce qu'on comprend éventuellement comme étant la soirée précédente, soirée au cours de laquelle il a eu recours au service d'une prostituée. Mais c'est les images de la soirée précédente, c'est des images qui sont très froides, qui sont statiques, qui indiquent une monotonie vraiment désolante dans la vie sexuelle de Brandon, qui résolument semble avoir délaissé la logique du désir pour la logique beaucoup plus, c'est quoi le mot que je cherche, redondante de la pulsion. Mais ces plans font contraste avec l'échange de regards qui s'effectue dans le métro entre Brandon et une inconnue aux cheveux roux. Il y a un échange de regards ici, mutuel, qui porte la promesse fantasmée d'une possibilité de rapport sexuel. D'ailleurs, par sa présence et par sa mise en scène, la femme rousse incarne le fantasme dans son fonctionnement le plus fondamental. Dès que Brandon tente de s'en approcher, elle lui échappe. Un peu comme l'objet fantasmatique qui se dérobe à nous dès qu'on tente de se l'approprier, ou, à l'instar même du fantasme, du moins du fantasme dans sa logique psychanalytique, qui se dissout nécessairement au moment où le sujet tente de le réaliser. Donc ici, on l'a exemplifié parfaitement avec Brandon qui tente finalement de s'approprier l'objet fantasmatique, et au moment où on pense que ça va arriver, bien, le fantasme se dissout, il s'évapore. Le fantasme est tellement central dans la chaîne qu'il est permis de se demander si finalement la femme rousse, elle existe dans l'univers du film, ou si elle n'est pas elle-même qu'un fantasme imaginé par Brandon dans une tentative de rétablir une logique fantasmatique que résolument il semble avoir traversée. Donc, il y a cette dépendance évidente à la culture pornographique chez Brandon qui représente finalement le résultat d'une pornographisation culturelle qui dissout le fantasme à force de trop vouloir l'investiguer. Par son recours à l'excès, cette culture pornographisée tente de mettre directement en scène l'objet du désir, le fameux objet petit A lacanien, tout en ignorant son aspect inaccessible. Autrement dit, la pornographie tente désespérément de transmettre l'illusion selon laquelle l'objet du désir pourrait se révéler à la vision. Mais dans les faits, ce n'est pas dans la monstration que le désir se manifeste et se perpétue, mais plutôt dans ce qui demeure inaccessible. Dans cette perspective, et je reviens sur mon point de départ, on pourrait situer le pouvoir de l'érotisme dans justement une frénésie de l'invisible. Et la logique pornographique, si elle veut désespérément percer le mystère de l'objet du désir, elle le fait au risque même du fantasme qu'elle tente de perpétuer. Et la culture pornographisée, pas pornographique, mais pornographisée, commet la même imposture. Et selon moi, Shame s'inscrit dans une tentative de révéler ce risque, donc de livrer un discours vraiment très critique. Brandon représente l'envers du personnage masculin omnipotent et porteur de cet hypothétique regard masculin objectivant, leur a enlevé tout ça. Plutôt que de lui conférer un pouvoir sur son objet du désir, ce regard dénude l'objet du surplus qui en fait un objet du désir à la base. Par exemple, il y a cette séquence capitale où Brandon fuit le bureau avec une collègue, Marianne, vers une chambre luxueuse afin de consommer une relation sexuelle, et Brandon va s'en montrer incapable. Donc, on a là une séquence qui présente, elle est capitale, cette séquence, elle présente l'omnipotence masculine comme le résultat d'une relation dysfonctionnelle entre le protagoniste, qui est dépendant sexuel, et le désir sexuel lui-même. Et l'image, elle est révélatrice ici, puisque, bon, Brandon a de la misère à accepter ce qui est en train de se passer. Devant lui, une télé éteinte, une des principales courroies de transmission là, d'une culture pornographisée. Derrière lui, Marianne, la femme dans sa réalité à laquelle finalement il n'a pas accès parce qu'il ne peut pas justement projeter son désir. Quand Lacan dit que l'objet du désir, l'objet petit A, représente ce qu'il y a dans l'objet plus que l'objet, il faut comprendre que finalement l'objet du désir n'est jamais un simple objet. C'est un objet que le sujet va investir d'une caractéristique propre à son propre désir. Donc un sujet au-delà du fantasme, comme Brandon, sera nécessairement un sujet qui ne projette plus cette qualité sur l'objet, qui délaisse conséquemment la logique du désir pour celle de la pulsion. Ainsi, quand il est capable d'accéder au désir sexuel typique, qu'il se révèle impotent dans cette séquence, qu'est-ce que Brandon va faire? Il va se tourner vers les services d'une prostituée. Donc là, il va se retrouver dans un échange où le fantasme d'un rapport sexuel est entièrement évacué par le biais d'une transaction financière. Donc, pour citer encore Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel ici. Pardon. La séquence paroxystique du film à la fin là, procure un aperçu encore plus approfondi du désespoir qui habite ce personnage dans son incapacité de réinsérer une dynamique du désir. Après avoir traversé plusieurs tentatives de renouer avec une forme de désir, on le voit finalement rejoindre deux prostituées dans une chambre et il va avoir une relation sexuelle avec les deux en même temps. Donc évidemment, si on se rapporte à l'univers de la porn dont on parle depuis deux jours, évidemment, c'est quelque chose de très récurrent. Sauf qu'ici, le rendement filmique va directement à l'encontre du rendement cinématographique habituel d'une sexualité de ce genre. Les corps sont présentés dans un esthétisme qui leur retire finalement toute forme de sensualité et leur confère plutôt un comportement presque animal. J'ai voulu mettre les images, mais finalement, je trouvais que j'en avais trop. Donc désolé, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, c'est l'image qui vient par la suite, après ces images un peu toutes mélangées de corps entremêlés, des images très animales, on va céder la place à un plan assez rapproché du visage de Brandon, qui visiblement prend aucun plaisir dans ce qu'il accomplit. Son visage trahit plutôt la détresse qui se manifeste graduellement durant la progression narrative du film. Sa dépendance sexuelle se révèle alors sous un jour incroyablement tragique. Cette dépendance sexuelle et son appui sur la culture et sur les discours pornographiques constituent la principale assise qui permet au film de confronter le spectateur à l'aboutissement finalement de la logique culturelle pornographisante. C'est une logique qui, en voulant trop nous rapprocher, nous les sujets, de l'objet fantasmé, va mettre en danger la structure même du fantasme. Donc pour terminer, ces deux films, je suis conscient que j'ai passé très rapidement, mais deux films qui s'opposent à l'encontre d'une tendance purement pornographisante et qui permettent de penser autrement le cinéma, tout comme sa mise en scène du désir et du fantasme, qui évidemment en font partie centrale. Ces films permettent de penser le désir cinématographique autour de ce que je pense qu'on pourrait appeler une frénésie de l'invisible, c'est-à-dire autour d'une logique où l'objet du désir est pensé précisément pour ce qu'il est, c'est-à-dire la source du désir et son catalyseur. Donc, il y a la psychanalyse contemporaine ici qui peut être intéressante pour nous permettre de repenser et critiquer cette pornographisation culturelle. La frénésie de l'invisible, qu'on peut comprendre dans une perspective lacanienne ici, puisque ça repose sur l'objet d'un objet de désir inatteignable, etc., pourrait, même en extrapolant et de façon très ambitieuse, être un élément intéressant pour distinguer l'image pornographique et pornographisante de l'image érotique. Alors que la porno veut éveiller le désir en montrant tout, finalement, et se faisant espérer révéler la présence de l'objet du désir, l'érotique arrive plutôt à perpétuer le désir en insistant sur l'irreprésentabilité de son objet. Donc, je finis de façon très abrupte là-dessus. Oui, bonne idée.